L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Épisode 11, l'histoire de la Gestapo, première partie. Alors que nous assistons un peu partout dans le monde à un retour des idées ultranationalistes, l'histoire nous fait de nombreux clins d'œil pour nous rappeler l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire mondiale. En cela, la Seconde Guerre mondiale a laissé de profondes cicatrices dont les stigmates sont encore profondément ancrés dans les esprits les moins étroits. Nous nous rappelons encore comment l'idéologie d'un seul homme, Adolf Hitler, a su profiter d'un contexte historique favorable pour entraîner le monde dans une guerre d'une violence extrême et dont le moteur antisémite fit tourner les rouages sanglants d'un conflit qui détruisit plusieurs continents et un peuple tout entier. Mais si l'Allemagne fut désignée coupable de tels crimes, il ne faut pas oublier pour autant qu'elle était alors sous la coupe d'un dictateur fasciste qui élabora toute une idéologie politique et un arsenal institutionnel pour soumettre ce peuple à sa volonté. Parmi ces outils, la police secrète mise en place par Hitler et ses sbires est l'un de ceux qui joua le rôle le plus important. Il s'agit de la Gestapo, la Geheime Staatspolizei, autrement dit, la police secrète d'État, fondée dans les mois qui suivirent l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933. Rapidement, elle devint un organisme de terreur qui participa à l'élimination des opposants politiques et des ennemis du régime. Après le début de la guerre en 1939, la Gestapo a continué à exercer cette violence politique dans tous les territoires occupés. Au fil du temps, son seul nom devint synonyme de danger pour ceux qui luttaient contre l'Allemagne nazie. Pour autant, Hitler ne pouvait dépendre d'une seule institution policière pour asseoir son pouvoir sur le Troisième Reich. Que ce soit l'Abwehr, les services de renseignement, la Schutzstaffel, ou SS, autrement dit les escadrons de protection, ou encore l'ASD, la Sicherheitsdienst, la police criminelle ou la police de la Wehrmacht. Tous ces organismes sont des parties prenantes de la terreur. Alors pourquoi retient-on surtout la Gestapo comme étant les bras droits des nazis? En quoi cette police secrète joua, peut-être plus que les autres, un rôle évident dans le système hitlérien qui tyrannisa une grande partie de l'Europe jusqu'à la chute du Führer en 1945?
Pour répondre à cela, nous allons essayer d'avoir une lecture chronologique de l'histoire de cette organisation. Elle nous permettra d'abord d'étudier la construction de la Gestapo, ce qui aide bien sûr à comprendre comment s'est constitué son champ de compétences dans l'Allemagne nazie. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, il est évident que pour bien comprendre l'organisme effroyable que va devenir la Gestapo, il faut se plonger au début des années 30, plus exactement en 1933, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir.
Et oui, tout commence le 30 janvier 1933, au moment où Hitler obtient la chancellerie dans le bureau du maréchal Hindenburg. Cela fait suite à la victoire aux législatives de juillet 1932 du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, en allemand le NSDAP, qui n'avait cessé depuis 1929 de progresser lors des diverses élections. Conséquence de la crise économique mondiale venue des États-Unis, les partis extrêmes, communistes et national-socialistes, deviennent alors les deux principales forces politiques du pays. Tandis que les nazis l'emportent avec 37,3% des voix, les communistes en comptent tout de même 14,3%. Symbole de ce déchirement de l'Allemagne, les militants des deux camps s'affrontent le soir même de la nomination de Hitler. C'est donc dans un climat de violence que le NSDAP arrive au pouvoir. Les postes clés du gouvernement sont occupés par des nazis chevronnés. La présidence du Reichstag,
autrement dit le Parlement allemand,
est déjà occupée depuis juillet 1932 par Hermann Göring, l'un des principaux bras droits d'Hitler. Un fidèle de la première heure, qui avait été gravement blessé lors du putsch raté de 1923 et qui avait été l'un des premiers nazis à devenir député dès 1928. Or, Göring a déjà en 1933 une connaissance précise des techniques de police politique grâce à son réseau. Hitler lui confie en plus la direction de la police prussienne. Et dès le 2 février, cette dernière est épurée. Tous les fonctionnaires républicains ou simplement un petit peu tièdes sont remplacés par des nazis venus des bras armés du NSDAP, c'est-à-dire les sections d'assaut, les SA, et les sections de protection, les SS.
Alors justement, allons un peu plus loin. Que sont précisément ces deux factions, les SA et les SS.
Alors, ces deux sections sont en fait des organisations paramilitaires qui regroupent des militants fascistes, anciens militaires ou policiers nostalgiques de la Première Guerre mondiale, qui luttent depuis le début des années 20 contre ce qu'ils appellent le diktat du traité de Versailles de 1919 et la République de Weimar qui dirige la reconstruction de l'Allemagne anéantie par la Première Guerre mondiale. La SA, la Sturmabteilung, a été créée dès 1921 et s'inspire du fascisme mussolinien. La structuration de la section, l'uniforme de chemise brune et la casquette, reprend les codes de ces mouvements ultranationalistes qui essaiment un petit peu partout en Europe occidentale. Les SA ont d'ailleurs un rôle essentiel lors de la tentative de putsch à Munich de 1923, ce qui lui valut d'ailleurs, avec le NSDAP, une interdiction de 1923-1926. Les actions violentes à l'égard des républicains, des juifs allemands et surtout des communistes sont nombreuses et régulièrement dénoncées. L'hymne de ses membres devient par la suite celle du parti nazi, et Hermann Göring en assure d'ailleurs la direction de 1923 à 1931. Les sections de protection, donc les SS, elles, ont été fondées en 1925, pendant la suspension des SA. Elle est à la base uniquement créée pour protéger le chef du parti, c'est-à-dire Adolf Hitler, mais rapidement, de nouvelles compétences lui sont confiées au sein du NSDAP. À la différence des SA, les SS ne participent à l'origine à aucune discussion politique. Ils ne sont qu'une troupe de choc qui exécute les ordres de la direction du parti. Et cette docilité et cette efficacité sont d'ailleurs très appréciées par Hitler. Rapidement, du coup, les SS montent en puissance et entrent en rivalité avec les SA. Hitler laisse faire car cette concurrence permet un excès de zèle entre les différentes organisations paramilitaires. Et souvent, ce zèle s'exprime par la violence. En 1929, la direction des SS est alors confiée à Heinrich Himmler, et c'est lui qui est alors le principal artisan de la montée en puissance de la section. De 280 membres en 1929, les Schutzstaffel passent à 15 000 hommes en 1931. Pour se distinguer des SA, Himmler exige de tous les postulants qu'ils prouvent une ascendance avec la race aryenne. En 1932, il commande à Hugo Boss de nouvelles uniformes noirs pour les officiers SS, de sorte à se démarquer davantage des chemises brunes des SA. Et en 1933, à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Himmler a 52 000 hommes sous ses ordres. Ce qui reste cependant encore très loin des 3 millions de membres que comptent les SA.
Et c'est donc chez ses serviteurs zélés du parti que Göring pioche les premiers éléments de la police politique qu'il est en train de créer en 1933. C'est le 9 février 1933 qu'il l'a fait entrer en mouvement.
Oui. Partout en Allemagne, des perquisitions ont lieu dans les locaux des partis communistes. Des armes, des notes prouvent la préparation d'un complot visant à faire tomber le nouveau chancelier. Des arrestations ont lieu et les responsables communistes ainsi interceptés sont confiés aux SA qui les torturent et les assassinent. C'est à ce moment que les libertés individuelles sont démantelées par le nouveau gouvernement, que la liberté de la presse, de réunion, d'expression sont abrogées, que les opposants politiques sont massivement arrêtés et déportés dans les tout premiers camps de concentration. Que le général Ludendorff, ancien ami d'Hitler, qui participa d'ailleurs au putsch de 1923, écrit alors à Hindenburg:
je vous prédis de la manière la plus solennelle que cet homme néfaste conduira notre pays à l'abîme et notre action à une catastrophe inimaginable. Les générations futures vous maudiront dans votre tombe pour avoir permis cela.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, maintenant que nous avons compris les germes de la Gestapo, nous allons voir dans cette deuxième partie la manière dont l'Allemagne nazie et de fait la Gestapo va s'attaquer aux différentes résistances qu'elle va rencontrer, qu'elles soient politiques ou populaires.
Oui, malgré tous ces efforts, la résistance politique des communistes commence à s'organiser. Il faut donc que les nazis parviennent à les discréditer, totalement en donnant corps aux allégations de complot qu'ils avaient eux-mêmes dévoilées lors des perquisitions du 9 février 1933. Encore une fois, c'est Göring qui est aux manettes de cette nouvelle machination. Pour s'assurer définitivement le contrôle de la rue, il autorise le 20 février aux policiers, sous ses ordres, de porter des armes à feu au lieu de matraquants ordinaires. Enfin, le 22 février, il embrigade comme policier auxiliaire 25 000 SA, 10 000 SS et 15 000 membres du Stahlhelm, une autre organisation paramilitaire affiliée au NSDAP. Et le 27 février au soir, le Reichstag, le siège donc de la Chambre des députés allemande, est incendié. Et le soir même, avant même qu'une enquête ait commencé, la radio annonce sur toutes les ondes « Les communistes ont mis le feu au Reichstag ». Sur le champ, le gouvernement promulgue des lois d'urgence pour la défense du peuple et de l'État. Je cite ce qui a été dit à ce moment-là. Le Parti communiste est directement frappé par la répression. Mais pas seulement lui. Les journaux sociaux-démocrates sont aussi interdits. Les libertés constitutionnelles sont abolies. Et finalement, à partir de cette date, le peuple allemand est livré sans condition à la volonté de la police nazie. C'est la fin du secret de la correspondance, de l'inviolabilité du domicile, l'habeas corpus, et autres. Les hommes de Göring peuvent désormais partout en Allemagne agir sans restriction et sans responsabilité, pratiquer l'arrestation secrète et la détention à perpétuité sans accusation, sans preuve, sans audience, sans avocat. La Gestapo allait garder plus tard ses prérogatives jusqu'à la fin de la guerre. Au total, on compte à peu près 7000 arrestations ce soir du 28 février 1933. Ces événements, qui permirent l'élimination de la principale force d'opposition en Allemagne, la propagande immense organisée par le parti nazi et la restriction des libertés individuelles, notamment de réunion et d'expression, permettent à Hitler de remporter largement les élections législatives anticipées du 5 mars 1933, qui lui offrent une majorité absolue, à peu près 52% des sièges. Le 23 mars, Hitler se présente devant l'Assemblée pour demander le vote des pleins pouvoirs. Et la rumeur, pendant la séance, justement, qui doit lui octroyer ses pleins pouvoirs, atteste de la présence de pelotons de SA autour du bâtiment et pousse les députés à lui accorder massivement, par 441 voix contre 94, les pleins pouvoirs. C'est donc la fin de la démocratie en Allemagne.
Eh oui, et la fin de la démocratie, mais une fois que les nazis ont conquis le pouvoir, il est évident qu'ils devaient maintenant le garder.
Et oui, et pour cela, le contrôle de la population est primordial. Si les partis politiques avaient été mis au pas, ainsi que les diverses institutions politiques qui étaient les derniers vestiges de la démocratie, c'est pas encore le cas pour les syndicats. À l'approche de la fête du travail du 1er mai 1933, on prend donc soin de surveiller les principaux responsables des différentes confédérations de travail. Pour cela, Göring signe pour la Prusse, dont il est encore le député et ministre de l'Intérieur, un décret instituant formellement la Gestapo ou Die Geheimstaatspolizei, ou police secrète d'État, comme nom de sa police politique et qui dépendait exclusivement de lui. Et la première tâche de cette nouvelle Gestapo est d'arrêter à Berlin les chefs syndicaux. Au total, 56 hommes sont arrêtés, les archives et les comptes en banque sont saisis. Et le même jour, tous les syndicats allemands sont placés sous la tutelle d'un, je cite, « comité d'action pour la protection du travail allemand » dirigé par le parti nazi. Et ainsi, des organisations qui regroupaient près de 6 millions d'individus sont écrasées sans la moindre résistance grâce à l'appui de la Gestapo.
Alors comme tu l'as dit Raphaël, la Gestapo, la Geheimstaatpolizei, est une police secrète d'État, mais si on creuse un peu, ce mot signifie aussi autre chose.
Oui, le mot allemand « Geheim » signifie aussi « privé ». Et c'est vrai que cette police va aussi poursuivre les ambitions et le service de l'État tout autant que son parti et son chef. Mais en 1933, ses compétences ne s'exercent que sur la Prusse et pas au-delà. C'est-à-dire l'Est de l'Allemagne, autour de Berlin, pour faire gros. Elle contribue largement à l'épuration des fonctionnaires de cette région. Elle commence aussi à mettre au point son réseau d'espionnage incessant à travers un filet de surveillance et de dénonciations anonymes. Et c'est très efficace. Dès le mois de juillet, la Gestapo parvient à démanteler une organisation clandestine du Parti communiste préparée depuis des années. Son chef, John Scheer, fut arrêté, enlevé et assassiné par les SA. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM.
D'ailleurs, Göring, tout puissant en Prusse, supportait de plus en plus mal les SA qui restaient encore très influents à l'est de l'Allemagne. Rien qu'à Berlin, les sections d'assaut comptent 600 000 hommes. Il voyait ceci d'autant plus mal que les rangs de ces SA comptaient parmi eux beaucoup d'anciens communistes.
Alors, petite parenthèse, sachez que les Berlinois avaient d'ailleurs baptisé les SA les sections Beefsteak, qui sont brunes dehors et rouges dedans.
Or, Ernst Röhm, qui est alors le chef des SA depuis 1931, ne se soucie guère de ces questions politiques. Il est à la tête de la principale organisation paramilitaire du pays. Avec ses 4,5 millions d'hommes, il est un vrai contrepoids pour Hitler.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire Göring pour lutter contre cette influence?
Eh bien, Göring, qui devient fin 1933 et début 1934 général et ministre de l'air, confie la direction de la Gestapo à un officier prometteur, le chef suprême de tous les SS, le Reichsführer Heinrich Himmler, le 20 avril 1934. Et quand il arrive au pouvoir, Himmler, qui avait aussi exercé des postes de directeur dans des polices politiques des plus grandes villes du pays, notamment Munich et Hambourg, et qui avait laissé des hommes de confiance à la tête de ces postes où il avait exercé, parvient à regrouper l'ensemble des polices politiques du pays sous son autorité à lui. Par exemple, il récupère Reinhard Heydrich, un SS qui était à la tête de la police secrète de Bavière, et le place au poste de chef de service central de la Gestapo. En procédant de cette manière, Himmler parvient à unifier au sein de la Gestapo l'ensemble des polices politiques du pays. Et ainsi, la Gestapo étend dès le début du règne de Himmler son autorité, non pas sur la Prusse, mais bien sur l'ensemble de l'Allemagne. En parallèle, Himmler restait le Reichsführer de tous les SS. Et il avait commencé, avant même d'intégrer la Gestapo, à s'attaquer à Röhm et à la toute-puissance de CSA. Au début 1934, il avait réussi à soustraire la gestion des camps de concentration au commandement des sections d'assaut. Ces camps passent alors sous l'égide des SS, et plus précisément sous la responsabilité d'une branche qui est dédiée, les fameux Totenkopf, ou les régiments Tête de Mort, qui allaient ensuite faire sombrer, dans une horreur pire encore, ces fameux camps de la mort lente.
On reviendra et on reparlera de Röhm dans quelques instants, mais c'est sous la coupe de Himmler que va s'intégrer à la Gestapo l'idéologie abjecte de la pureté de la race aryenne.
Oui, c'est véritablement sous le commandement de Himmler que la police secrète devient profondément nazie et raciste. En plus de ça, la Gestapo bénéficie de l'intégration au sommet de sa hiérarchie de Reinhard Heydrich, qui accumulait également la fonction primordiale de chef de la SD, donc la fameuse Sicherheitsdienst, et autrement dit, les services de renseignement du Reich. Grâce à ça, la Gestapo disposait d'informations classées secrètes. Et l'alliance entre Heydrich et Himmler et Göring pouvait maintenant enfin se dresser contre la toute-puissance de Ernst Röhm, le chef des SA, et le dernier rempart, finalement, à l'omnipotence d'Adolf Hitler.
Pourtant, Raphaël, Hitler et Röhm, bien que tous les deux nazis convaincus, antisémites et amis de longue date, leurs objectifs divergeaient fondamentalement.
Hitler, c'est bien que pour faire la guerre, il faut des généraux, des amiraux, des officiers compétents, des stratèges, des spécialistes. Il a toujours promis à l'armée de la délivrer du carcan du traité de Versailles, de lui redonner ses effectifs et son armement. Mais les généraux veulent plus. Ils veulent la peau de Röhm et des SA, qui pourraient avaler l'armée. Röhm est aussi très critiqué pour sa folie des grandeurs. Il fait de l'ombre à Hitler. Les milieux de l'industrie s'inquiètent quand ils proclament « La révolution nationale-socialiste n'est pas terminée ». Goebbels dit « C'est un bolchevique déguisé ». Ils sont complices depuis 15 ans. Mais Hitler a pris sa décision. Éliminer Röhm en prétextant qu'il prépare un coup d'État. Hitler désigne les bourreaux. Himmler, chef des SS. Heydrich, chef de la Gestapo. Sepp Dietrich, un ancien garçon boucher, devenu chef de la garde rapprochée du Führer.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. On vient donc d'écouter un extrait d'Apocalypse, le Führer épisode 2, avec la voix de Mathieu Kassovitz. Et si on revenait, donc justement, on l'entend, hein, cette histoire veut mal finir entre Röhm et Hitler, comment ça se passe?
Oui, en effet. Tandis que Hitler souhaitait la construction d'un Lebensraum, c'est-à-dire d'un espace vital pour la race aryenne et la contre-révolution qui permettrait d'abattre le communisme, le second, donc Röhm, était encore hanté par la débâcle de 1918 et l'infâme traité de Versailles, c'est comme ça qu'il l'appelait. Röhm, donc ancien officier de l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, avait particulièrement mal vécu la limitation d'une armée à 100 000 hommes imposée par les vainqueurs de la Grande Guerre. De plus, les SA qu'il commandait restaient une menace pour le régime. Ces 4,5 millions d'hommes violents, peu disciplinés, impulsifs, pouvaient semer le désordre dans le Reich. Ce qui était un atout lorsque le NSDAP cherchait à conquérir le pouvoir dans le début des années 1920 et les années 30 était devenu véritablement encombrant après 1933.
Et c'est au mois de juin 1934 qu'Hitler leur donne le feu vert.
Et oui, les SD de Heydrich espionnaient depuis longtemps Röhm et avaient constitué un véritable dossier à présenter au Führer pour discréditer définitivement leur cible. Ce dernier, homosexuel notoire, multipliait en plus, depuis quelques mois, les critiques à l'encontre des décisions du Führer. Surtout, la Gestapo trouva des preuves de complot. Les multiples imprudences de Röhm leur avaient permis de découvrir que ce dernier avait l'intention de provoquer des agitations pour forcer Hitler à recourir au SA pour établir l'ordre. Et si ce stratagème ne suffisait pas, Röhm estimait pouvoir aller encore plus loin jusqu'à renverser Hitler. Göring et Himmler présentèrent cette préparation de putsch au Führer. Röhm, sentant que l'étau se resserrait autour de lui, mit en congé tous les SA le 19 juin 1934 avec interdiction absolue de porter la chemise brune tout l'été. Puis, il se retira dans sa Bavière natale. Il espérait ainsi démontrer à Hitler qu'aucune tentative de putsch n'était à craindre de sa part. Et pour marquer cette séparation, Röhm organisa un banquet avec les grands responsables SA pour le 1er juillet 1934. Himmler et Heydrich firent interpréter ce banquet comme étant le déclenchement d'un coup de force pour renverser le Führer depuis Munich. Le 30 juin, ce dernier est arrêté dans sa résidence près de Munich, en même temps que son état-major. Le 1er juillet, Röhm, condamné à mort avec 19 de ses officiers SA, est assassiné dans sa cellule pour ne pas avoir à comparaître devant un peloton d'exécution. C'est une fleur pour lui. Avec une extrême efficacité, les SSE multiplient partout dans le pays des exécutions sommaires des responsables SA.
Ah, et c'est à ce moment-là que Göring obtient carte blanche pour purger le pays.
Oui, et il s'appliqua particulièrement à éliminer Karl Ernst, le chef de la section SA de Berlin, député au Reichstag et conseiller d'État. Ce dernier, qui devait partir opportunément en croisière, fut retrouvé par la Gestapo à Brême le soir même. Il eut beau protester, car il n'était pas au courant de la déchéance de Röhm, il fut exécuté le jour même par les SS. Et pour justifier sa mort, la Gestapo sortit les preuves de sa responsabilité dans l'incendie du Reichstag de 1933. En fait, les SS profitèrent de ce massacre en règle pour éliminer tous les commandos SA si utiles en ce jour crucial de février 33, mais qui sont devenus encombrants depuis.
Alors la purge va se poursuivre partout les 30 juin et 1er juillet 34 et prit plus tard le nom de Nuit des Longs Couteaux. Raphaël, est-ce qu'on sait historiquement le nombre de morts lors de ce fameux événement ?
En fait, il est difficile de dire combien d'hommes sont morts ces jours-là, car Göring a décidé de détruire tous les dossiers liés à ces sanglantes journées. Officiellement, les nazis ont reconnu la mort de 71 personnes, mais il semblerait que nous soyons plus autour des 1000. Parmi les victimes, on trouve d'ailleurs des hommes qui n'avaient rien à voir avec les SA. Autrement dit, la Gestapo s'est saisie de cette occasion pour éliminer tous ceux qui gênaient le régime. C'est d'ailleurs ce que confirma Wilhelm Frick, alors ministre de l'Intérieur nazi en 1934, lors du procès de Nuremberg en 1945, puisqu'il dit à propos de cet événement « Parmi les gens assassinés lors de la purge de Röhm, beaucoup n'avaient rien à voir avec la révolution intérieure SA, mais n'étaient pas très aimés. » Ce fut le cas, par exemple, de Gregor Strasser, ancien nazi parti en disgrâce en 1932 et qui tenait depuis une pharmacie, ou encore l'ancien chancelier et prédécesseur d'Hitler, le général von Schleicher, assassiné chez lui en même temps que sa femme par des agents du SD. Par ailleurs, plusieurs milliers de personnes furent déportées en camps de concentration. Selon le responsable de Dachau, jugé lors du procès de Nuremberg, le camp comptait encore en 1935 700 à 800 victimes des purges de Röhm.
Nous sommes au milieu des années 30. La Gestapo est déjà bien installée. La deuxième émission consacrée sur cet organisme central du pouvoir nazi nous emmènera de 1934 à la marche vers la guerre. L'histoire de la Gestapo, une émission préparée par Raphaël,
présentée avec Ben,
produite par Radio Barthes.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais soir. Elle infecte le système, on n'arrive plus à dire je t'aime, on a trop peur d'ouvrir son cœur. Elle surfe sur nos bas instincts, c'était mieux avant que demain. Elle est étranger, c'est compliqué. Alors il faut nous réveiller, il n'est pas trop tard pour gueuler, qu'elle nous enfume, la peste brune.